Périscope, l'émission de littérature sous-marine, mais pas que. Bonjour. Aujourd'hui, le Périscope vous propose de plonger au plus profond du noir, de l'obscurité, du mal humain, grâce au récit de Geneviève de Gaulle-Antonioz, La traversée de la nuit.
Cette traversée, c'est celle qu'a connue l'auteur après son arrestation pour fait de résistance. La traversée d'une interminable nuit qui s'étire de 1943 à 1945. Une nuit qui tombe peu après son enfermement à la prison française de Fresnes, où elle arrive au mois de février. Isolée dans sa cellule, elle ne connaît que la voix de ses co-détenus. À son départ, ses biens ne lui sont pas tous restitués. Elle ne retrouve ni sa montre en or, ni sa bague de topaze. On lui remet par contre sa pipe. Geneviève, femme libre, fume la pipe.
Elle est ensuite transférée au camp de Royallieu, non loin des Crêts et des Silex de Compiègne. Nouveau palier dans sa descente aux enfers, elle va y retrouver des centaines de femmes de toute la France. La nuit, c'est aussi celle de l'arrivée à Ravensbrück, la nuit du 2 au 3 février. Après un terrible voyage en train, sauter hors du wagon, se mettre en colonne, cheminer à travers les peignes, puis franchir la porte du camp. À son arrivée, Geneviève, matricule 27372, travaille comme toutes les prisonnières pour des SS. Elle travaille des jours entiers au terrassement d'abord, puis la fourrure et la lessive pour enfin rentrer dans sa cellule, au bloc 2, quand la nuit tombe.
Entre deux travaux, elle est convoquée à l'infirmerie, où elle se retrouve seule, dans une pièce. Elle aperçoit des hommes en blouse blanche qui utilisent les détenus, celles que l'on appelle les caninchen, les lapins, pour leur faire subir des expériences, injectant des maladies, coupant des bras, coupant des jambes, intervention sans asepsie, sans anesthésie. L'un de ces hommes lui rend visite, lui ordonne d'ouvrir sa robe et la pique à la poitrine. Bien plus que la mort, c'est la destruction de l'âme humaine qui est au programme de l'univers concentrationnaire.
C'est dans la nuit encore qu'on la déplace au bunker où le noir est plus profond. Elle est mise à l'isolement. Nièce du général, elle pourrait servir de monnaie d'échange. Elle découvre sa cellule à tâtons. Une tablette, un tabouret, une prise d'eau. Geneviève se sent terriblement seule dans cet antre sombre. Lors de son séjour dans cette pièce noire, sans aucune fenêtre, son besoin de communication est si fort qu'elle entame des monologues, que les cafards deviennent ses camarades de cellule au point de les baptiser Félix et Victor. Puis, Anna, une des surveillantes sous les ordres des SS, prend le risque de la soutenir après que Geneviève lui a remaillé ses chaussettes de laine. Aussi, la privilégie-t-elle en lui apportant des paquets, des lettres que sa famille et ses proches lui envoient.
Full
Vous êtes toujours sur Radio Grenouille, dans Périscope, à Ravensbrück, dans la nuit que traverse Geneviève de Gaulle-Antonioze.
Dans cette nuit, une lueur d'espoir, la seule qui peut-être lui reste, celle de la fraternité, de la solidarité de ses amis. Émilie Tillon, Germaine, Jacqueline, Maria, Mère Elisabeth, Mère Marie, Daniel, Milena et Grete. Geneviève survit au camp de femmes de Ravensbrück pendant 2 années grâce à l'amitié de ses co-détenus. À chaque fois que Geneviève est faible, que l'envie de baisser les bras l'assaille, le souvenir de ses proches lui permet de tenir le coup. Comme cette fois où elle a été battue pour s'être assise sur des vêtements de SS, comme cette fois où elle est tombée malade et qu'elle voulait se laisser mourir. Apprendre alors que ses amis cherchent à prendre de ses nouvelles l'aide à survivre.
Ainsi, au cours de son enfermement, un élément vient bouleverser son quotidien. Elle reçoit pour Noël un paquet envoyé par ses amis. Ce paquet contient toutes sortes d'objets banals, mais qui apportent beaucoup à Geneviève. Une branche de sapin, une chanson française, 4 biscuits en forme d'étoile, une pomme rouge et brillante, un petit morceau de lard, 2 sucres, une poupée brodée d'un J et d'un A, les initiales de son amie Jacqueline d'Alincourt, et une étole beige dont elle s'entoure aussitôt. Dès lors, elle ne se sent plus seule. Ses camarades lui ont rappelé cette chaîne de fraternité qui les unit les unes aux autres. Tous ces privilèges développent cependant chez Geneviève un grand sentiment d'injustice car elle a l'impression de ne pas les mériter et voudrait souffrir comme ses amis détenus.
Au plus profond de la nuit, il est une autre lumière tenue mais vitale à laquelle Geneviève se raccroche. Celle de l'art ou du souvenir qu'il en reste. Un besoin qui pousse à dérober des livres dans les bagages des arrivantes à l'heure du tri, pour une plongée dans la version allemande de Moby Dick, une évasion 20 milieux sous les mers, ou le soleil de Carthage trouvé entre les pages de Salambo. Les poèmes, qui souvent et de manière inattendue reviennent en mémoire, La Fontaine, Apollinaire ou Dubelé. Un besoin de musique aussi, une marche lorraine chantée à l'arrivée au camp, le douce nuit qui brise le silence d'une veille de Noël, des leaders appris par son père, les paroles d'une chanson de Lucien Boyer. Un besoin de peinture, enfin, Geneviève entretiendra toujours l'espoir de revoir les nymphéas de Monet à l'orangerie.
Geneviève reçoit un jour la visite d'un civil et d'un médecin qui l'interroge sur sa vie au camp et les traitements qu'elle a subis. Longtemps dans la solitude des cachots, elle a préparé son réquisitoire, son acte d'accusation. Mais, face à eux, elle s'interroge. Que lui volent ces hommes? Doit-elle parler? Doit-elle tout dire? Le jour vient à peine de poindre. Après lui avoir remis une robe, des chaussures, un manteau, son manteau, celui-là même qu'elle portait la nuit de son arrivée, on conduit Geneviève dans le bureau du bunker. Là, elle retrouve une autre détenue. Elles échangent un regard, se prennent la main. Encadrées de 2 SS et d'une surveillante, elles franchissent la porte du camp, dans un paysage de neige battu d'un vent glacé. L'aube se lève à peine, c'est peut-être celle de l'espérance.
C'était donc « La traversée de la nuit », un récit de Geneviève de Gaulle-Antonioze, publié aux éditions du Seuil, dans la collection Point. La Minute Corse, donc maintenant, la Minute Corse, qui, comme vous le savez, n'est pas forcément corse, mais présente en tout cas des entreprises collectives. La Minute Corse d'aujourd'hui, donc, est bien plus longue, puisque vous l'avez entendu, la présentation de la traversée de la nuit a été lue par Malika, Sophia, Sérine, Amandine, Rima, Safa, Mélanie et Raphaël. Ils l'ont écrite après avoir lu le livre de Geneviève de Gaulle-Antonioze, à la demande d'un autre auteur, bien vivant, Dominique Sigaud, en prélude à un atelier d'écriture qu'elle mène avec eux. Nous avons aujourd'hui la chance d'être en ligne avec Dominique Sigaud. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Le livre de Geneviève de Gaulle-Antonioze pose la question de la nécessité de l'écriture. Alors nous, on a d'abord une première question. Pourquoi écrivez-vous ?
C'est une très vaste question, comme vous vous en doutez. J'écris, disons, pour ménager, aménager, travailler ma propre liberté.
Pourquoi alors faites-vous écrire ?
Eh bien, précisément pour la même raison, c'est-à-dire pour apprendre aux petits à faire la même chose, c'est-à-dire à travailler leur liberté, à la structurer, à la renforcer davantage et davantage. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément en travaillant sur la déshumanisation et la réhumanisation par le lien, la solidarité, l'amitié, etc., on travaille sur ces questions-là qui sont toujours valables. Et les ateliers d'écriture, c'est aussi une façon précisément de retrouver sa singularité et de réapprendre à la considérer, à l'apprécier, à l'aimer et à apprécier aussi celle des autres. Et je crois que c'est ce qui se passe dans les ateliers d'écriture.
D'où l'idée dans les ateliers d'écriture, pardon, de conseiller aux candidats à l'atelier de manger des carambars.
Oui, ça c'est très très important. C'est très important parce que c'est très agréable, c'est beaucoup de douceur. Et puis c'est un lien que je fais entre moi petite et eux petits. Et ça marche toujours.
Et puis un peu de douceur dans ce monde de brut, parce qu'il y a un autre élément essentiel aussi, dans le choix de la traversée de la nuit, c'est aussi cette plongée dans le mal.
Et ça me paraît très très important qu'ils apprennent très jeune la notion de résistance, surtout ces petits-là qui peuvent parfois déjà considérer qu'ils valent pas grand-chose. Et c'est comme ça finalement que le travail de déshumanisation a pu être possible. C'est d'abord après des années pendant lesquelles on a expliqué à une partie de l'humanité qu'elle valait pas grand-chose, mmh. et qu'on les a désignés comme tels aux yeux des autres. Et donc, pour moi, il est tout à fait fondamental que des petits comme eux, qui déjà n'ont pas toujours une très bonne opinion d'eux-mêmes sur les aspects fondamentaux de l'existence, puissent se retrouver un peu ensemble, un peu d'accord avec eux-mêmes, quoi.
En tout cas, là, ce que nous, on a déjà constaté avec Madame Rosset, c'est qu'ils n'ont plus le même regard sur le mal. Cette idée de banalité du mal, cette approche-là, en tout cas, est passée. Et ils n'ont plus le même regard et c'est déjà ça de gagner.
Mais en fait, je pense qu'ils savent déjà, ils savent énormément de choses. Ils savent déjà énormément de choses et c'est juste un rappel. Et ce qui est important justement avec des auteurs et avec des œuvres, c'est que c'est là pour rappeler des choses qu'on sait déjà, mais on les voit écrites, on les voit. Et puis bon, c'est vrai que Madame de Gaulle, elle en parle avec une grande humilité, presque une grande douceur. Donc elle permet d'entendre que c'est valable pour tout le monde ce qu'elle écrit. Et c'est comme ça aussi que je choisis des auteurs à faire lire aux plus petits, pour qu'ils entendent bien que ça leur appartient à eux aussi.
C'est à eux de prendre la suite, c'est à eux d'écrire, de se lâcher en écriture et d'entrer en résistance.
En fait, ce que je leur ai dit dès la première séance sur le fait que être un auteur, c'est être celui qui fonde et qui établit, c'est pour qu'ils se réapproprient ces notions-là, y compris vis-à-vis de leur propre existence. Et en fait, le fait de les faire écrire ces écritures singulières, puisque en fiction, il s'agit que de ça, c'est précisément qu'ils retrouvent cette idée. Parce que parfois, ils ont tendance à la perdre. Et eux, en plus, ils sont dans une génération abreuvée de télévision, de jeux vidéo et de choses parfois tout à fait immondes dans les téléréalités, etc., qui précisément font ce travail de déshumanisation. Ce qui se passe aujourd'hui quand même dans certaines émissions réalité, c'est bien ça. Il s'agit de déshumanisation.
C'est ça.
Et donc, leur rappeler, mais ils le savent. Hein. Mais il s'agit juste d'être là en tant qu'adulte pour leur rappeler que non, tout ça c'est de la cochonnerie. Ça a déjà existé sous d'autres formes, c'était déjà de la cochonnerie et c'est encore de la cochonnerie. Et c'est une façon aussi de les autoriser à le penser comme ça.
C'est ça.
Parce qu'ils peuvent très bien le penser comme ça, mais simplement ne pas s'autoriser à le penser, puisqu'ils peuvent avoir l'impression que globalement, c'est accepté.
Oui, et puis c'est aussi leur rappeler, ce sera peut-être là le mot de la fin, mais c'est aussi leur rappeler la valeur de la fiction. Parce que la télé-réalité, justement, c'est peut-être pas la vraie vie, c'est pas parce qu'il y a écrit en direct sur l'écran que c'est là la vraie vie. Et puis peut-être que le rapport à la fiction dans la vraie vie aide à mieux combattre. Il y a mieux se connaître soi-même et il y a mieux écrire et à mieux considérer l'autre.
Bah, Ça sert surtout à symboliser, et ce qui est en train de disparaître, enfin pas de disparaître, mais ce qui manque de plus en plus, c'est ça, c'est la symbolisation. Et nous, en tant qu'êtres humains, on en a absolument besoin. Et là, je sais qu'il y a une jeune femme à qui on avait demandé de faire le petit chien. Alors elle a fait le petit chien, donc c'est une réalité, c'est pas de la fiction, elle a fait le petit chien. Et elle a expliqué que personne ne l'avait forcé à faire ça. Mais ben voilà, justement, il n'y a plus de symbolisation quand on fait ça. C'est le contraire. Et c'est ça que je trouve extrêmement dangereux.
Ben, merci beaucoup Dominique Sigaud. Merci de nous avoir fait découvrir Geneviève de Gaulle-Antonioz, La traversée de la nuit. Périscope s'achève là. Nous vous souhaitons une bonne lecture, une bonne saison d'été au bord de l'eau avec plein de lectures, notamment de Dominique Sigaud. Et puis à la saison prochaine. Au revoir.